francophone de la Voix de l'Amérique propose Votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir est une émission hebdomadaire sur les grandes questions de santé.
Bienvenue sur Votre santé et votre avenir, ici Khalil Gueye à Maseru, au Lesotho. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Madame Thérèse Zeba, représentante de UNFPA ici au Lesotho. Madame Zeba, bonjour et bienvenue sur Votre santé et votre avenir.
Bonjour Khalil.
Madame Zeba, pouvez-vous nous faire l'état du VIH-Sida ici au Lesotho?
La situation du VIH-Sida au Lesotho n'est pas satisfaisante. Dans ce sens que le Lesotho était à la troisième place, à savoir le taux le plus élevé, le troisième taux le plus élevé. Et parce que les autres pays ont fait beaucoup de progrès, le Lesotho est maintenant à la deuxième place du taux le plus élevé en ce qui concerne la prévalence du VIH-Sida. Ce qui veut dire que pendant que d'autres pays faisaient des efforts, soit le Lesotho n'a pas fait d'efforts supplémentaires, soit les programmes au Lesotho ont régressé. Particulièrement, le Lesotho est un des pays où on continue à enregistrer beaucoup de nouvelles infections, et à savoir l'infection primaire. Des gens qui n'ont jamais été en contact avec le virus entrent en contact avec le virus chaque jour, chaque semaine, ce qui accroît le nombre de personnes vivant avec le VIH. Pendant ce temps, la couverture, l'accès au traitement n'est pas encore à un niveau acceptable. Elle est très faible. Il faut tenir compte de la géographie de ce pays, un pays de montagne, où la population, le plus grand nombre de la population vit dans les montagnes et n'ont pas l'accès aux services, et où les services n'ont pas aussi la possibilité d'aller vers les populations. Ce qui fait que nous avons encore un grand nombre de personnes qui n'ont pas suffisamment d'informations sur le VIH. Au niveau des jeunes, c'est presque 25% à 28% des jeunes entre 15 et 24 ans n'ont pas la bonne information en ce qui concerne le VIH. Certaines personnes n'ont jamais testé leur statut, ne connaissent pas leur statut. Et parce qu'ils ne connaissent pas leur statut, ils n'ont pas la possibilité d'être enrôlés dans un programme quelconque qui peut leur permettre d'accéder au traitement. Et vous savez que quand on n'est pas sous traitement, ceci accroît les possibilités d'être infectieux dans les contacts sexuels. Par ailleurs, nous avons noté aussi, bien que l'utilisation des condoms soit à un niveau acceptable, il y a encore un grand pourcentage de jeunes qui déclarent n'avoir pas utilisé de condom à leur dernier contact sexuel, ce qui constitue un risque quand on sait que ces personnes ne connaissent pas leur statut. Elles sont peut-être séropositives ou séronégatives, mais dans tous les cas, elles n'ont pas utilisé de condom à leur dernier rapport. En plus, près de 20% des jeunes hommes ont déclaré avoir plus de deux partenaires, ce qui accroît le risque. Le nombre de partenaires associés à la non-utilisation des condoms, la non-connaissance du statut, fait que le risque d'attraper l'infection devient grand. Et je pense que avec les derniers résultats de l'enquête démographique et de santé, les différents services vont vraiment mettre le paquet. Un autre aspect qui accroît la vulnérabilité due au VIH, c'est la tuberculose. Nous avons beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes hommes qui souffrent de tuberculose, soit liés à un statut inconnu. Ils étaient peut-être séropositifs, ils ne le savaient pas, ou parce qu'ils travaillent dans les mines, ou en tout cas un environnement qui les prédispose à la tuberculose. Et le Lesotho est classé le quatrième taux le plus élevé en ce qui concerne la tuberculose.
Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour faire face à cette situation dramatique?
Le pays est en train de faire de grands efforts. Ils ont développé un grand programme de soins de santé primaire afin de pouvoir mettre les communautés au centre des actions pour l'amélioration de la santé. Ils sont en train de développer un programme pour la santé sexuelle et reproductive et réviser ce programme afin d'adresser les questions les plus urgentes du moment. Ils ont aussi un grand programme pour les jeunes, parce que le pays est conscient que le futur réside dans la jeunesse. Et il y a un programme qui est en cours, appuyé par différents partenaires, dont UNFPA, pour rendre les centres de jeunes beaucoup plus proches des jeunes du milieu rural. On veut se départir de l'ancienne vision qui est un centre où les gens attendent que les jeunes viennent. Les centres que le ministère de la Jeunesse met en place, c'est un centre où les jeunes vont vers les jeunes du milieu rural. Au lieu de rester dans un centre et attendre que les jeunes viennent, c'est plutôt les jeunes adultes ou les jeunes encadreurs qui vont vers les jeunes qui sont dans les villages. Et par ailleurs, il y a un grand engagement des ONG qui travaillent avec la jeunesse et qui ciblent vraiment les jeunes les plus vulnérables, ceux qui sont perdus dans les montagnes, les bergers par exemple, qui n'ont pas accès à l'information, ou les jeunes filles qui tombent enceintes par faute d'information à l'âge de 12, 13 ou 14 ans. Il y a des ONG comme l'affilié de l'IPPF au Lesotho, que nous appelons LPPA. Il y a aussi Help Lesotho. Il y a aussi d'autres ONG ou associations communautaires qui vraiment ciblent les jeunes afin d'adresser le problème à la base. Il y a des efforts qui sont faits.
Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur la manière dont ces ONG travaillent avec vous, avec votre organisation, le Fonds des Nations Unies pour la Population?
De façon générale, l'identification ou la sélection d'une ONG pour travailler avec UNFPA est basée sur ce que l'ONG même fait déjà. Donc, nous ciblons les ONG qui sont déjà actives dans le domaine de population, ou plus précisément dans le domaine de santé sexuelle et santé de la reproduction, le domaine des jeunes, le domaine de la prévention de la mortalité maternelle. Et parlant de LPPA, comme vous savez, c'est une affiliée de l'IPPF. Et l'IPPF est un ancien et grand partenaire de l'UNFPA. Depuis la conférence internationale sur la population et le développement en 1994 au Caire, IPPF et UNFPA ont travaillé main dans la main pour renforcer un peu la connaissance des gens sur les droits sexuels et les droits en matière de reproduction. Et au niveau des pays, nous reflétons cette collaboration en identifiant au niveau de chaque pays où peut être le domaine de collaboration. Au Lesotho, notre partenariat avec l'IPPF, donc son affilié LPPA, c'est de renforcer les liens entre les programmes de prévention du VIH et les programmes de santé sexuelle et santé de la reproduction. C'est de renforcer les connaissances et les attitudes des jeunes face au VIH-SIDA. Et c'est aussi de renforcer les capacités des jeunes filles, surtout les jeunes adolescentes, en matière de prévention des grossesses non désirées. Ces aspects-là ont été renforcés dans la collaboration que nous avons avec LPPA. Et LPPA fait même des services à distance en allant vers les jeunes et les jeunes filles qui sont dans les zones accessibles à cause de la géographie de ce pays.
Un exemple, c'est les campagnes de sensibilisation qui se font dans les montagnes, comme à Semonkong, dans les montagnes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça?
Oui, l'historique de Semonkong, c'est que UNFPA, avec le programme de UNV et le ministère de la Jeunesse, en charge de la jeunesse, nous avons fait des visites dans les districts. Et on voulait particulièrement visiter les centres jeunes et qui existent dans ces districts et voir comment ces centres répondent aux besoins des jeunes. Et quand nous sommes arrivés à Semonkong, nous avons été informés d'un problème pressant qui existait. C'était les grossesses des adolescentes. parce que ces mongkongs couvrent un certain nombre de villages et les jeunes filles viennent à ces mongkongs pour être dans les écoles secondaires. Et elles doivent habiter là toute la semaine ou tout le mois et se sont retrouvées ainsi vulnérables aux grossesses précoces. Et c'est ainsi que nous avons abordé LPPA et nous leur avons demandé, dans la mesure où dans leur programme, ils font déjà des services à distance pour le planning familial, pour l'engagement des hommes. Nous leur avons demandé d'envisager d'avoir des services à ces mongkongs pour informer, non seulement informer les jeunes filles sur la possibilité de prévenir les grossesses non désirées, mais aussi leur offrir les services de planification familiale. Et LPPA a été vraiment très coopérative et aussitôt après, ils ont commencé ces services-là. Et jusqu'à présent, ils continuent ces services au niveau de ces mongkongs. Leur vision maintenant, c'est de pouvoir avoir un service fixe à ces mongkongs. Pour le moment, ils le font à distance. Ils ont un véhicule et ils se déplacent à ces mongkongs pour offrir les services. Mais la vision serait d'ouvrir un service à ces mongkongs. Parce que ce qui se passe à ces mongkongs, c'est que les services de santé qui sont là sont des services de santé qui viennent d'institutions charismatiques. Et certains aspects de la santé et de la reproduction ne sont pas offerts, comme le planning familial. Avoir une structure sur place qui fonctionne avec du personnel de LPPA serait un grand atout parce que ils vont offrir les services que les structures sanitaires de ces institutions charismatiques n'offrent pas, notamment la planification familiale.
Vous êtes sur Votre Santé, Votre Avenir. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et n'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission.
Un autre aspect, Madame Zeba, de votre intervention ici, c'est les bergers, comme vous appelez ici les herd boys. Alors, pourquoi justement une action sur les bergers?
Comme vous savez, UNFPA a une cible très importante, les adolescentes. Mais nous avons analysé la situation. Pour la cible, c'est les adolescentes, mais les stratégies pour améliorer la santé de ces adolescentes, pour réduire la vulnérabilité de ces adolescentes, passent par la communauté, par les parents, par les potentiels partenaires. Ce qui nous a amené à considérer la situation des bergers. Les bergers sont des jeunes garçons, l'âge varie de 10 jusqu'à une trentaine d'années, qui sont dans les montagnes, qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès aux services et qui n'ont même pas accès à des revenus convenables, à savoir des revenus économiques. Tout cela crée chez ces jeunes-là une certaine frustration qui les amène à avoir des comportements à risque. Ils sont recensés comme étant ceux qui perpétuent les violences sur les jeunes filles, sur les femmes. Et ils n'ont jamais été testés. Certains n'ont jamais eu l'information. Et nous avons pensé que c'était vraiment important d'avoir une action, un programme de renforcement des capacités de ces jeunes-là afin qu'ils puissent ne plus être un danger, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le reste de la population. Parce qu'ils sont les premières victimes s'ils ne savent pas comment se protéger du VIH. Mais ils seront aussi un risque pour les autres s'ils sont séropositifs et ne le savent pas et n'utilisent pas de condom. À ce moment, ils seront un risque pour le reste de la population. Parce qu'ils sont dans une population où ils ont des interactions avec les jeunes filles, avec les parents. Donc, c'est ce qui a motivé vraiment notre appui à Help Lesotho pour couvrir cette population-là. Ici, au Lesotho, les garçons sont moins informés que les filles. Et souvent, ils vont moins à l'école que les filles. C'est vrai que les filles, à partir d'un certain moment, quittent l'école à cause des grossesses, à cause d'un certain nombre de choses. Mais au niveau de l'enrôlement à l'école, les garçons s'enrôlent moins que les filles. Donc, ont moins d'informations que les filles.
Donc ici, on ne parle pas de l'éducation des filles autant qu'on en parle ailleurs.
Ici, les filles sont, si vous prenez l'éducation primaire par exemple, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Parce que les garçons, ce qui les empêche, ce qui les fait quitter l'école, soit ils veulent devenir bergers ou ils vont dans les mines pour avoir rapidement de l'argent. Ils vont dans les mines, ils passent leur adolescence là-bas. Et bien sûr, ils reviennent de temps en temps au pays. Et malheureusement, ils peuvent s'infecter du VIH là-bas. Ils peuvent avoir la tuberculose et ils reviennent malades au pays où ils sont bien portants. Ils ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Et c'est ainsi qu'ils peuvent aussi infecter d'autres partenaires. Donc, c'est vraiment primordial d'avoir un programme qui cible ces jeunes-là. Et avec le programme que nous avons avec Help Lesotho, nous avons commencé à voir des résultats. On a commencé à voir des airboys qui reconnaissent que le comportement qu'ils avaient avant n'était pas un comportement positif, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur communauté. Donc, c'est ce genre de petits résultats que nous voulons encourager. Car, dit-on, ce sont les petites rivières qui finissent par former un grand fleuve. Donc, si nous avons des petits résultats comme ceci, des changements d'attitude, des changements de comportement par-ci, par-là, nous finirons par faire tache d'huile et de toucher le maximum de jeunes hommes qui, à leur tour, pourront être des agents de changement dans leur communauté au lieu d'être des agents de risque pour leur communauté.
Et votre activité dans la prévention du VIH va jusqu'aux personnes non-voyantes?
Oui. Ce que nous avons fait avec dans ce domaine, c'est une initiative avec le ministère de l'Éducation en partenariat avec l'UNESCO. Et un draft, un document, un module en braille a été développé. Et nous estimons que nous devons continuer cet effort, continuer à appuyer le ministère de l'Éducation pour que ce module soit diffusé au niveau des enseignants et que les enseignants de braille soient formés à l'utilisation de ce module pour améliorer la santé, la compréhension de la santé sexuelle et reproductive au niveau des écoles. Nous avons un autre besoin aussi, c'est les jeunes malentendants et muets. Ce sont des jeunes très dynamiques, mais comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas accès aux outils traditionnels. Parce qu'ils n'entendent pas, ils n'ont pas accès aux cassettes, des DVD de formation ou même la télé, la télévision. Ils n'ont pas accès à certains outils d'information et de formation. Je pense que ce serait bien si des modules pouvaient être développés aussi pour permettre aux jeunes sourds muets d'être mieux informés sur la situation du VIH et comment se prévenir eux-mêmes de ce fléau.
Comment appréciez-vous votre collaboration avec le gouvernement de Lesotho?
La collaboration avec le gouvernement de Lesotho, je peux l'apprécier comme étant bonne. C'est un gouvernement, quand vous parlez de programme, de stratégie, de politique, la plupart de ces documents existent. Et c'est un programme où nous avons des résultats qui sont appréciables. Les services de santé maternelle sont accessibles. L'accouchement dans les services de santé par un personnel qualifié est à un niveau acceptable. Et quand nous comparons tout cela, nous comprenons qu'il y a un problème dans la qualité des services. Et c'est ainsi que notre collaboration avec le ministère de la Santé a permis de renforcer la surveillance des décès maternels à travers les revues des décès maternels, les audits des décès maternels. Et en 2014, nous avons aidé le ministère à développer les outils pour les audits, l'audit verbal au niveau de la communauté. Et nous pensons que cette année, ils vont utiliser ces outils-là pour procéder aux audits de décès maternels dans la communauté, dans les 3 districts où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. Mais le ministère de la Santé fait face à un défi qui mitige un peu les résultats. C'est-à-dire, il a un gap de personnes ressources. Au Lesotho, la plupart des personnes formées trouvent du travail dans les pays environnants et dégarnissent ainsi les structures de santé de leur propre pays. Le ministère de la Santé vient de commencer une initiative qui serait d'encourager le personnel de santé qui est dans la diaspora à revenir pour donner des services dans leur propre pays. Ceci est un véritable gap parce que nous avons des structures de santé qui manquent de personnel. Mais nous pouvons dire aussi que le ministère fait des efforts, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment en connexion avec tous les partenaires au développement que nous pourrons les aider à avancer dans l'amélioration de la santé de chaque Basotho ici au Lesotho.
Et le ministère de l'Éducation, de la jeunesse fait partie des titres du mandat.
Oui, nous avons une collaboration de longue date avec le ministère de la Jeunesse. Ce ministère est jumelé avec le ministère du Genre et le ministère en charge des sports et des récréations. Nous avons un nouveau gouvernement. Nous ne savons pas si ce jumelage entre 3 grands programmes va continuer. Mais nous avons une collaboration avec eux à travers le renforcement dans les compétences de vie de la jeunesse. Et ces compétences de vie incluent les connaissances sur le VIH, la prévention du VIH, la prévention des grossesses précoces et le renforcement des capacités de leadership des jeunes, le renforcement de leur participation aux activités. Bien sûr, il y a toujours à ce niveau aussi le manque de personnes, ressources. Et c'est ainsi que, en collaboration avec le service des VNU, nous avons décidé cette année d'appuyer les actions en direction de la jeunesse avec les jeunes volontaires. Nous avons donc recruté des volontaires nationaux qui sont des jeunes et qui vont permettre dans les différents districts, qui vont permettre donc de renforcer les activités en direction des jeunes, enrôler beaucoup davantage de jeunes dans les programmes afin que ces jeunes puissent être informés, formés et orientés sur les services. Par exemple, nous voulons accroître le nombre de jeunes qui acceptent le test. Parce que tant que tu n'es pas testé, tu peux pas prétendre à un quelconque enrôlement dans un programme de traitement. Et quand tu es testé négatif, ça te crée une prise de conscience qui va te décider à mettre en œuvre quelque chose qui va te permettre de rester séronégatif. Donc, nous avons ce programme et nous fondons beaucoup d'espoir sur ce programme et nous supportons ce programme qui est un programme du ministère de la Jeunesse. Avec le ministère de l'Éducation, nous n'avons pas, en dehors des modules et de la formation des maîtres, et nous n'avons pas un programme particulier avec le ministère de la Jeunesse. Mais le programme que nous avons avec eux et que nous voulons renforcer, c'est le programme que nous appelons Comprehensive Sexual Education. C'est une éducation sexuelle, mais qui se met dans un contexte global, dans un contexte plus holistique, de donner aux jeunes les capacités de comprendre un certain nombre de choses et qui sont liées à la sexualité. Un jeune qui sait négocier n'importe quel aspect de sa vie pourra aussi négocier les questions sexuelles. Donc c'est une éducation sexuelle, mais qui se situe dans un contexte beaucoup plus large de prévention du VIH, prévention des grossesses, mais aussi de capacité de parler, capacité de s'exprimer, capacité de participer à des actions, capacité de devenir un jeune leader qui peut s'exprimer et ne pas seulement écouter ce qu'on dit, mais qui peut aussi enrôler d'autres jeunes dans ce programme-là. Et ça, c'est vraiment un programme que nous souhaiterons renforcer avec le ministère de l'Éducation parce qu'avec le ministère de l'Éducation, l'école reste un canal aussi pour faire passer beaucoup d'informations aux jeunes. Parce que le taux de scolarisation ici est très bon. Donc c'est une grande cohorte de jeunes qui sont sur les bancs et qu'on peut facilement informer à travers les écoles. Le ministère de l'Éducation.
Vous suivez Votre Santé et Votre Avenir. Nous sommes à Maseru, au Lesotho, et notre invitée est Madame Thérèse Zeba, représentante de UNFPA ici au Lesotho. Madame Zeba, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique?
Ce que je peux dire, c'est que le Lesotho est un pays classifié comme pays à revenus intermédiaires. Même si le Lesotho est encore dans le cadran inférieur, c'est un pays qui a beaucoup d'avenir sur le plan économique. Mais après avoir dit cela, je peux ajouter que beaucoup de donateurs ont un peu suspendu leur appui au Lesotho. Et nous estimons qu'il y a un gap entre la bonne croissance économique que le pays a amorcée et la situation socio-sanitaire des populations. Il y a un gap. Parce que voici un pays qui avance assez bien sur le plan économique, mais où nous avons une prévalence de VIH très élevée, une mortalité maternelle élevée et une mortalité infantile élevée, même si nous avons observé une régression de ces deux taux de mortalité. Donc, ceci crée des besoins. C'est dire que nous avons encore un pays qui a des besoins à couvrir. Et malheureusement, les ressources que nous recevons, et que ce soit UNFPA ou les autres agences, les ressources que nous recevons ne sont pas toujours à la hauteur des besoins. Et par ailleurs, les possibilités de mobilisation interne de ressources sont limitées. Dans d'autres pays, même si vous n'avez pas des ressources régulières, vous avez beaucoup de partenaires sur place vers qui vous pouvez vous tourner et qui peuvent financer d'excellents programmes pour combler la différence. Mais ici, la plupart des donateurs sont en Afrique du Sud ou à l'extérieur de l'Afrique, et ça demande beaucoup plus d'efforts pour mobiliser des ressources. Ceci me donne aussi l'occasion de saluer l'implication des autorités de ce pays. Je pense particulièrement à Sa Majesté le Roi et aussi à Sa Majesté la Reine. Je sais qu'ils ont eu à faire plusieurs déplacements à l'extérieur dans des pays amis du Lesotho pour mobiliser des ressources pour les jeunes, pour mobiliser des ressources pour la santé maternelle et la santé infantile. Et je pense que c'est le moment aussi de saluer cet intérêt qu'ils portent donc aux programmes sociaux et qui permet au pays de mobiliser des ressources. Je pense aussi que l'un des gaps ici, c'est le fait qu'il y a un gap en ressources humaines fait aussi que souvent, même quand nous mobilisons des ressources, quelquefois le taux d'absorption est assez faible. Et ça, c'est un problème qui entraîne un autre. C'est un problème auquel nous, les partenaires au développement dans ce pays, nous faisons face tous les jours.
Thérèse Zeba, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro spécial de Votre Santé, Votre Avenir.
Merci, Khalil.
Votre Santé, Votre Avenir, c'est terminé. Miko Khalil Gueye, au revoir depuis Maseru.
Tambula, tambula, soyez prêts pour le combat. Tambula, tambula. allons vers la victoire.